liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et bienvenue dans l'émission Paroles de citoyennes et citoyens, créée par les Gilets jaunes. Cette émission a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à toutes citoyennes et citoyens, habitant sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune, nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Si vous voulez réagir, voici notre mail paroledecitoyens@frequence7.net, minuscule singulier tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, comme à notre habitude, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, les citoyennes et citoyennes en action sur notre territoire. En plat de résistance, Gilets jaunes, 6 ans déjà. Et nous vous proposons un film musical qui met en évidence le parallélisme de l'évolution au Liban et en Palestine. La solidarité, y compris culturelle, entre ces deux peuples. Nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien, génocidé, et tous les peuples du Moyen-Orient, victimes des guerres, en partageant avec vous une recette d'un des pays du Levant. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit.
Oui, alors on va attaquer avec l'entrée, les infos, les événements sur ce qui se passe sur notre territoire et autour. Et on va démarrer en parlant d'eau et en parlant des sols, de l'eau, des sols. On vient d'avoir un épisode Cévenol qui ressemble à un épisode Cévenol, comme toujours. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi fort, mais bon, c'est un épisode Cévenol. Mais quel rapport avec le changement climatique, se dira-t-on, vu tout ce qu'ils nous racontent à la télé? Quid de la bétonisation? Quid de la gestion des cours d'eau? Quid des constructions en zone inondable? Quid de la gestion des barrages? Toutes ces questions sont posées à l'occasion de cet événement. Et Anne va nous parler un peu de cette question des sols.
Eh bien oui, Dominique, je rebondis sur cette question d'artificialisation en voulant évoquer la rocade en fait, qui est prévue à Saint-Péret. Alors Saint-Péret, c'est vers Guilherand-Granges et vers Valence. Et en fait, il y a un projet de rocade alors qui dure depuis un moment. Les travaux ont commencé en octobre, malgré la mobilisation des citoyens et des citoyennes depuis plusieurs mois. En fait, il y a 8 hectares de terres agricoles et arables qui sont destinés donc à être ensevelis sous du béton. Et on sait bien que effectivement la question du drainage des eaux est particulièrement sensible en fait dans toutes les zones et en particulier dans les vallées, puisque tous les ruisseaux, les fleuves convergent en fait vers des points l'eau a besoin de terre pour pouvoir pénétrer dans la terre et ne pas inonder justement des zones habitables, des zones commerciales, etc. Donc c'est vrai que la bétonisation est grandement responsable des catastrophes que l'on vit actuellement. Même si ce n'est pas la cause, en fait, ça en accentue les effets. Et donc, sur cette zone de Saint-Péret, donc c'est un contournement sans étude d'impact réellement, et la Comcom de Rhône-Cruzol, en fait, ne se préoccupe pas tellement du droit environnemental. Alors à ce sujet, la Déroute des routes par exemple, qui est un mouvement en fait qui s'est constitué justement pour lutter contre les grands projets inutiles, en particulier de transport, a bien noté et a bien fait l'analyse en fait de ces contournements en disant que effectivement au début il y a toujours un contournement ou une voie rapide qui va être construite avec deux arguments qui sont de fluidifier le trafic et de desservir des territoires, de désenclaver des territoires. En fait, bon, les études montrent que l'un et l'autre des arguments est totalement faux, et que ce qui se passe en général après, c'est que une fois que ces rocades sont faites, elles sont construites pour le trafic international de marchandises, et que donc elles s'accompagnent immédiatement d'entrepôts, et donc de plus de bétonisation. Donc en fait, on peut relever qu'entre 2011 et 2021, en fait, il y a eu 24 000 hectares, en fait, chaque année de zones naturelles agricoles qui sont bétonnées. Et donc à propos de la loi, donc c'est l'équivalent de 5 terrains de foot par jour. À propos de la loi, donc, il y a eu la fameuse loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, qui a été votée en 2021 avec des améliorations depuis 2021. Et alors, on se demande comment cette loi, en fait, qui a un horizon de 2050. Hein. Alors, on peut se dire, on a le temps de bétonner autant qu'on veut jusqu'en 2050. Il y a quelques étapes préliminaires des objectifs intermédiaires, en fait, de réduire la consommation d'espace. Alors, c'est des termes un peu différents, on y reviendra peut-être plus en détail lors d'une autre émission. Mais en tout cas, maintenant, en fait, il s'agit de réduire de moitié donc, la consommation des 24 000 hectares. Et donc, on n'en serait plus que sur 2,5 terrains de football par jour de bétonisation. Alors, est-ce que Saint-Péray est inclus dans ces 2,5 terrains de football par jour? En tout cas, c'est quand même vraiment une lutte à mener là-bas, parce que ce sont des projets... qui ne dévoilent pas toutes leurs cartes et qui appartiennent certainement à l'époque révolue que l'on souhaite quitter.
Et à présent, Dominique, tu vas nous parler du Moyen-Orient.
Oui, on en parle à chaque fois, hein, du Moyen-Orient. Malheureusement, la guerre continue, ça fait plus d'un an maintenant. Et malheureusement, bien sûr, des citoyens du Sud-Ardèche se réunissent tous les samedis matins à l'Agora pour manifester leur soutien à l'idée, au principe d'un cessez-le-feu immédiat pour la protection des populations. Et maintenant, voilà que Israël s'attaque aussi au Liban. En Palestine, on a vu des images de personnes arrêtées massivement et conduites, alors des personnes, des hommes, hein, voilà, des rafles d'hommes, arrêtées massivement et conduites dans des lieux de rétention, sans autre raison que le fait d'être palestinien. De telles pratiques nous rappellent quand même des choses qui se sont passées dans le passé en France, notamment des rafles d'hommes en 41, c'est comme ça que ça a commencé, ces histoires-là. Et on voit quand même que l'histoire, elle nous renvoie des choses tout à fait bizarres et réserve des surprises. Comment un État reprend les méthodes que les tortionnaires appliquaient sur les gens qu'il est censé défendre aujourd'hui. Donc un État qui représente aujourd'hui le peuple israélien applique aux autres ce que exactement son propre peuple a malheureusement subi dans le passé. Alors ça fait partie des choses de l'histoire qu'il nous faut combattre malheureusement. Et on a vu également des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, des familles et des nombres d'enfants incroyables envoyés sur les routes, perdus, à moitié mourants. Enfin bon, c'est vraiment absolument révoltant. Et ce qui se passe maintenant, c'est que cette même pratique se transpose sur le territoire libanais exactement de la même manière et avec les mêmes arguments. Donc les gens sont considérés comme étant des terroristes, non par leurs actes, mais par leur ADN. C'est-à-dire, ils sont génétiquement terroristes. Il suffit d'être palestinien ou libanais, tu es considéré comme terroriste, tu peux avoir 0 mois ou 85 ans, tu es un terroriste et on te flingue, et on a le droit de le faire. C'est quand même très 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 grave ce qui se passe là à l'échelle mondiale. Voilà. Donc on a eu droit à une conférence internationale à Paris initiée par Macron. Qu'en dire ? On a vu que des sommes relativement importantes ont été mobilisées pour l'aide humanitaire au Liban. C'est une conférence pour le Liban. Pour l'aide humanitaire, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de mobiliser les ressources du Liban pour qu'ils se défendent, il ne s'agit pas de mobiliser les ressources du Liban pour arrêter, et des autres pour arrêter la guerre, il s'agit juste de donner à bouffer et de soigner des gens qui sont moribonds et qui sont foutus dehors. Donc moi, je n'appelle pas ça vraiment une action pertinente, digne d'un État comme le nôtre. Et ce à quoi je voudrais tirer mon chapeau quand même aux citoyens libanais avec lesquels je suis en contact quotidien, qui malgré tout le combat qu'ils doivent mener quotidiennement contre l'État d'Israël et contre la guerre, n'hésitent pas aussi à mener le combat contre leurs propres dirigeants, tels qu'ils l'avaient commencé avant. Et notamment sur la question des aides humanitaires, il faudra qu'on soit attentif à ce que l'aide qui soit envoyée, elle aille vraiment là où il y a besoin et pas dans les poches des dirigeants pourris du Liban dont on sait les conséquences que ça a.
Et maintenant, je voulais vous présenter une musique qui a été composée et chantée par Mohamed Abdel Wahab en 1949 pour introduire un peu le sujet par rapport au Moyen-Orient. « Et ensuite, on va écouter une autre musique avec Fayrouz et les frères Rabbani dans les années 50. C'est la plus ancienne chanson de soutien à la Palestine, Ratiyoun, nous reviendrons, dont la première édition date de 1957. Et après cet extrait, après avoir écouté cet extrait, je vous lirai quelques paroles traduites de cet extrait.
أطلي قليلا فإننا راجعون
يا بلادي زمانا طويلا أذلك الغاصبون
يا بلادي
أطلي قليلا فإننا راجعون
في هدأة السكون في رهبة الحصون أصحابنا على الطريق الرحب يهتفون
في الأبطال
Alors, je vous lis la traduction. Mon pays a longtemps été humilié par les usurpateurs. Mon pays attend un peu, car nous reviendrons. Ô mon pays, il y a longtemps que les usurpateurs t'ont humilié. Attends encore un peu, car nous reviendrons. Dans le calme du silence, dans la crainte des forteresses, nos compagnons sur la large route applaudissent. Nous reviendrons sous la pluie, sous l'ouragan, nous reviendrons au soleil, au vent, dans les champs. À El Bata, nous reviendrons, nous retournerons dans notre pays, dans le sable et les ombres, dont les récifs et les collines, nous reviendrons.
Merci de cette traduction, Edwige, qui est très émouvante. Alors maintenant, on va passer à notre sujet de fond, peut-être, de l'émission, notre plat de résistance, les Gilets jaunes, 6 ans déjà. En effet, nous nous approchons de la date du 17 novembre, et ce que nous vous proposons, c'est de traiter de ce sujet pendant 2 émissions consécutives. Et pour l'introduire, voici une chanson, écrite par les Gilets jaunes de Millet et interprétée par eux.
Gilets jaunes, c'est toi, gilets jaunes, c'est moi. Il faudra bien parler de tout l'argent volé à ces gens qui croyaient que l'État les protégeait.
Rendez la monnaie, là, rendez la monnaie.
Oh.
Rendez la monnaie, là, rendez la monnaie.
Oui, alors on en parle, pourquoi ? Bon, c'est pas simplement une question d'anniversaire, parce qu'il y a 6 ans, bon, ok, on n'est pas dans la commémoration, mais on est simplement dans une chose qui est évidente pour beaucoup de gens, c'est que non seulement c'est le plus grand mouvement social depuis 1968, mais qu'en plus il n'est pas fini. Tout le monde craint dans les hautes sphères de notre pays, et tous ses intermédiaires et leurs intermédiaires, que la flamme sera vive d'un moment à l'autre. Et effectivement, on le voit, d'ailleurs moi en ce moment je vois dans les réseaux Gilets jaunes beaucoup d'agitation ces dernières semaines. Un peu d'histoire sur comment les choses ont démarré, parce que je crois que tout le monde ne l'a pas vécu, donc ça peut être intéressant à tout le monde de se souvenir. Le 29 mai 2018, Priscilla Ludowski, qui est une femme qui gère une petite entreprise de commerce de cosmétiques en région parisienne, lance une pétition en ligne sur la nécessité d'une baisse des taxes sur les produits de première nécessité, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, la baisse des rentes et des salaires des hauts fonctionnaires et des élus. Cette pétition, elle intervient dans un contexte de forte hausse des carburants depuis le début de l'année 2018 et une perspective gouvernementale d'aligner à terme les prix de l'essence et du gazole. Et elle a pour caractéristique d'emblée dans son texte d'inclure et lier opposition aux différents choix gouvernementaux impactant le pouvoir de vivre des citoyens et revendiquant d'autres actions pour l'environnement. Et en étant très argumenté et très étayé. C'est vraiment une pétition très, très longue en plus, hein, avec beaucoup de choses à l'intérieur. En quelques mois, cette pétition recueille plus d'un million de signatures. Elle devient ainsi la 2e pétition la plus signée en France depuis celle contre la loi travail en 2016, qui avait reçu 1,6 million de signatures. En octobre 2018, Éric Drouet, chauffeur de poids lourd, lance lui un appel à un rassemblement d'automobilistes sur le boulevard périphérique de Paris pour protester contre la hausse de la taxe sur les carburants. Ces deux-là se mettront en contact pour donner plus d'ampleur à leurs initiatives. Ainsi naîtra l'appel aux gilets jaunes sur les pare-brises des voitures dans un premier temps, puis l'appel au 17 novembre 2018.
Il n'empêche que l'idée de... Comment dire, l'idée d'utiliser le gilet jaune comme symbole de ralliement, c'est quand même une idée de génie, je trouve, Dominique.
Oui, tout à fait, parce que tout le monde en a dans sa voiture, donc ça ne coûte rien. On ne peut pas être verbalisé parce qu'on met son gilet jaune sur le pare-brise, là. Et donc, pendant tout un temps, ça a commencé à se dire, et tout le monde dans la rue en circulait, en regardait, est-ce qu'ils ont des gilets jaunes, et petit à petit on voyait monter le truc, c'est-à-dire qu'il y en avait de plus en plus de gens qui avaient mis leurs gilets jaunes en avant dans la voiture, quoi. Et le gros de l'organisation, des appels, etc., il s'est fait par les réseaux sociaux et notamment par Facebook. Alors, bien évidemment, les deux initiateurs, là, Priscilla et Eric, avaient leur propre page Facebook, mais ils ont créé des pages Facebook dédiées eux-mêmes. Notamment, La France en colère a été créée par Éric Drouet, donc ça a eu un gros écho, et des déclinaisons locales. Et puis, des pages spécifiques, les gilets jaunes machin, les gilets jaunes trucs, enfin, tous les parents gilets jaunes, tout, quoi.
Et qu'est-ce que, comme initiative locale, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là?
Alors, localement, donc, un peu partout, il s'est fait des choses. Et ici, en Sud-Ardèche, particulièrement deux jeunes femmes, que personne dans le monde militant n'avait jamais côtoyé. Donc deux jeunes femmes se sont branchées par Facebook comme ça et ont décidé de lancer un appel local. Et elles ont créé une page Facebook d'appel pour le 17 novembre en Sud-Ardèche. Et petit à petit, autour de ces deux jeunes femmes, se sont agrégés des gens et qui ont commencé à organiser, à préparer des tracts, à préparer, à faire vivre la page Facebook, etc. Et tout ceci a essaimé petit à petit sur le territoire. Quand est arrivé le 17 novembre, la veille au soir, une décision a été prise de changer le nom de cette page Facebook locale, qui maintenant s'appelle Info Mouvement Citoyen Novembre 2018 Sud 07, pour bien mettre en avant qu'il s'agit d'une page d'information, de relais d'information, et non pas d'organisation, de quoi que ce soit. Parce que on a des copines, des jeunes femmes aussi, c'est marrant, les femmes ont pris une place très importante là-dedans, à Priva, qui ont été menacées dans leur vie personnelle, dans la vie professionnelle, qui ont été menacées par la police, hein, enfin des gens en tout cas qui se sont présentés comme la police. Et donc, sous l'attaque de l'accusation d'organiser la sédition, organiser des tas de choses, voilà. Et voilà, la surprise, eh bien, on l'a eue sur les ronds-points. À Aubenas, on a eu le rond-point de Leclerc et le rond-point de Millet qui ont été occupés dès le premier jour.
Les ronds-points avec leur forme de cercle, c'est intéressant quand même. Symboliquement, c'est très fort de se rassembler sur un rond-point.
Oui, là aussi, c'était la deuxième bonne idée, après les gilets jaunes. C'est vrai que c'était une idée extraordinaire, parce que tout le monde passe. C'est-à-dire que du coup, il y avait aussi non seulement les gens qui se retrouvaient en rond, en cercle, mais il y avait aussi les voitures qui passaient là et qui discutaient. Hein, voilà. Donc là, il y a un mouvement d'échange qui s'est déclenché. On reviendra sur tout ça un jour. Et au fil de la journée de ce 17 novembre, sous la pluie, hein, tombante, il est apparu évident que personne ne rentrerait chez soi. Et que ça allait durer et qu'on allait rester sur place.
Et je vois l'heure filer, donc je pense que ce serait temps de parler des cahiers. La deuxième partie de l'émission, c'était sur les cahiers de doléances, mais peut-être qu'on ne va pas pouvoir tout à fait bien les aborder, mais déjà de commencer à en parler.
Oui, et puis on reviendra dessus lors de prochaines émissions, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais effectivement, les cahiers de doléances a été un des moyens, en fait, trouvés par le pouvoir pour éteindre l'incendie ou pour tenter de l'éteindre. Sur le registre, je vous ai compris, ou je vous ai entendu, ou je vais vous entendre. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça revient maintenant régulièrement sur le tapis avec Michel Barnier qui annonce qu'il va s'inspirer des cahiers de doléances, des gilets jaunes pour construire son plan d'action. Enfin bon, voilà, donc on est toujours en fait dans des phénomènes d'annonces, alors que effectivement depuis tout ce temps-là, en fait, les cahiers de doléances n'ont jamais été rendus publics. Il n'y a jamais eu d'expertise ni même de grandes lignes tracées à partir de ce qu'avaient pu dire les citoyens. Voilà, peut-être qu'on reviendra ultérieurement sur l'histoire des cahiers de doléances parce qu'il y a beaucoup à dire et qu'on est un peu pressé par le temps. Et voilà, de toute façon, la date anniversaire, le 17 novembre, n'est pas encore tout de suite. On aura le temps d'y revenir.
Oui, juste pour terminer sur cette partie-là, en fait... Il y a eu aussi les cahiers de doléances localement, en France, ils ont été inscrits dans le grand débat de Macron, Voilà. Et il y avait en même temps le vrai débat. Donc c'est des choses qu'il faudra qu'on approfondisse à l'occasion d'une prochaine fois. Mais c'était de choses différentes. Et puis de toute façon, il y a beaucoup à gratter là-dedans.
Il est déjà temps de passer au dessert, je pense.
Exactement. Donc on va écouter une musique. Et cette musique, c'est la dernière de la série des musiques.
Anne va nous la présenter.
D'accord. Eh bien, alors, voilà, vous allez avoir la chance d'écouter, en fait, une musique, en fait, des frères Rabbani, en fait, dont le poète palestinien Mahmoud Darwish disait plus tard qu'à cette époque, ils étaient les véritables auteurs des hymnes nationaux palestiniens et des chansons de référence et des motivations pour aller de l'avant. Joseph Massad fait écho à Darwish en soulignant qu'en l'absence d'un État palestinien, ce sont les chansons qui servent souvent à enregistrer et à diffuser les sentiments et les aspirations d'un peuple dépossédé. Ainsi, les Rabbani écrivent une comédie musicale qui s'appelle Jibal al-Sawan, les montagnes de Silex, qui appellent à la révolte.
Et alors, il est temps de que je vous présente la recette du jour. Donc, c'est les kébés au potiron. Donc, les ingrédients, il vous faut 1 kg de potiron, du borgol brun fin, 300 g, un oignon ou deux, de la menthe fraîche en demi-bouquet, des épices, du kébé, une cuillère à café donc de ces épices, 10 g de sel, une boîte de pois chiches déjà cuite, 3 cuillères à soupe de farine et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous lavez les morceaux de potiron, vous les épluchez, les coupez et les mettez à cuire, soit dans une casserole 15 à 20 minutes, soit dans une cocotte minute. Il faut bien égoutter le potiron une fois qu'il est cuit, le passer au moulin à légumes. Laver le bourgol brun fin dans une passoire et le mélanger à la purée de potiron. Il ne faut pas le laisser tremper dans l'eau au préalable. Laissez reposer le mélange. Hachez finement l'oignon et la menthe. Ajoutez l'oignon, la menthe, le sel, les épices, les pois chiches bouillis. Vous pétrissez le tout en ajoutant la farine nécessaire à l'obtention d'une pâte homogène facile à étaler. Il faut huiler le plat de cuisson, étaler la préparation d'environ 1 cm d'épaisseur, décorer la surface de la kébé à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette, verser 2 cuillères à soupe de sucre et recouvrir la surface de kébé d'un filet d'huile d'olive. Vous faites cuire au four environ 30 à 40 minutes à 180 degrés. Le kébé doit être doré. Servez tiède ou froid, accompagné d'une salade. Bon appétit. Et pour conclure, je vous rappelle le mail de l'émission, paroledecitoyen@frequence7.net tout attaché. Je remercie Anne et Dominique d'avoir partagé cette émission avec moi. Et bien sûr, on remercie Sylvain, à la technique et à la réalisation. Et je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.